œil.
Et dans cette édition, on ira à Moréa avec cette visite très attendue de la ministre. On parlera des municipales aussi, plus que 3 semaines avant le premier tour. Et on vous donnera le programme des événements pour patienter jusqu'à Tahiti 2027. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc par cette visite très attendue ce matin à Moréa.
Oui, la visite de Samantha Bonnet-Tirao, qui, vous le savez, a été nommée voilà 10 jours ministre de l'Éducation et de la Culture. Et c'est peu de le dire, les 3 années de mandat de son prédécesseur Roni Terihipaya ont fait débat sur l'île sœur. Il y a eu bien sûr l'annulation du projet de lycée de Moréa qui continue de faire grincer des dents des deux côtés du chenal. Il y a surtout les troubles persistants du transport scolaire, une compétence du pays. Et c'est de ce sujet que Samantha Bonnet-Tirao est venue parler ce matin du côté du collège d'Afare Aitu et de l'école primaire toute proche. À chaque fois, des visites de classe, des rencontres avec les enseignants, mais surtout des parents d'élèves qui étaient plutôt souriants. Et pour cause, la nouvelle ministre a annoncé dès la semaine dernière à Tahiti Info qu'un nouveau prestataire avait été choisi pour le transport scolaire. Il s'agit de Juliana Ruta. Elle avait déjà officié avant que Warren Transport ne reprenne le marché. Avec les problèmes d'horaire et de fiabilité qui ont été dénoncés ces derniers mois. De nouveaux bus, 12 ont été mis en circulation ce lundi de la rentrée sur l'île sœur grâce à un partenariat avec le RTCT, d'où la satisfaction des parents d'élèves. La ministre a tout de même précisé que cette solution n'était que temporaire. Un nouvel appel d'offres doit être lancé cette année pour cette prestation de transport d'élèves. Ce sera le 5e. Mais Samantha Bonnet-Tirao assure que les horaires et la qualité du transport seront améliorés dès les prochaines semaines. À Moréa, c'est aussi vers la commune qu'on se tourne, car c'est bien la mairie et non pas le pays qui doit régler les problèmes de transport en commun non scolaire. Là aussi, un nouvel appel d'offres est attendu de pied ferme.
Et on continue avec les municipales, plus que 3 petites semaines avant le premier tour.
Et on s'intéresse à Tepuan Wisno, candidat à Harwe. Il mènera la liste Yaora Harwe. Il avait obtenu un peu plus de 7% des voix en 2022, bien loin derrière les 71% de Teura Iriti, qui était d'ailleurs notre invité du quart d'heure de campagne il y a quelques minutes. Vous pouvez revoir son interview en intégralité sur nos pages Facebook de Radio 1 et Tiers FM. Mais Tepuan Wisno retient d'autres chiffres, celui des abstentionnistes notamment. 44% des électeurs n'étaient pas venus voter, plus de 3000 voix à aller chercher pour ces prochaines échéances municipales et puis sur les déçus aussi de la Tavana actuelle.
Vous savez, je pense que la population, lorsqu'elle a élu Teura Iriti, elle comptait sur un réel changement. Et ce changement, il a eu lieu sur certains aspects, effectivement, notamment de la politique sociale qui a été menée par Teura Iriti. N'oubliez pas, Teura Iriti, c'est l'enfant de Gaston Floss. Donc elle a mis exactement les mêmes principes, la même façon de travailler que Gaston Floss. Le social, le social, le social. Mais il n'y a pas que le social. Je veux dire, beaucoup d'autres choses auraient pu être réalisées.
Voilà, il souhaitait au départ monter une plateforme autonomiste pour l'abattre, mais ça n'a pas marché. Alors peut-être pourra-t-il grappiller les voix aussi de l'équipe de Philippe Schill qui ne se représente pas. Mais surtout, il craint d'être de nouveau en minorité au conseil municipal.
C'est vrai que cette candidature, en même temps, elle est arrivée de manière tardive parce que, vous savez, d'être dans l'opposition, ça n'est pas facile. C'est frustrant souvent parce que même si on a la meilleure idée, elle n'est jamais prise par la majorité.
Oui.
Parce que souvent, en fait, on arrive au conseil municipal, on a travaillé sur les dossiers, on participe aux commissions. Et puis, lorsque on s'exprime, alors soit on se fait railler par la majorité, soit de toute manière, on ne nous écoute même pas. Et puis, alors après, on n'a aucun moyen de relais par rapport au projet que l'on puisse proposer. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant à un moment donné, et surtout lorsqu'on arrive au bout de 6 ans. Et qu'on voit que les choses n'ont pas forcément évolué dans le sens que l'on aurait espéré.
Mais bon, tant pis, il veut quand même retenter l'expérience en espérant être moins seul. Cette fois, peut-être que son programme réussira à convaincre plus d'électeurs. Il veut s'intéresser à l'eau, la sécurité, la jeunesse et l'emploi, la qualité de vie, le développement économique du côté mer et des sites de défense aussi. Et il a un gros projet, un tunnel au niveau de Erima pour fluidifier la circulation. Vous pouvez retrouver son interview en intégralité sur notre site radio1.pf et nos pages Facebook de Radio 1 et Tiers FM.
Les acteurs publics et privés de la santé et du numérique doivent définir le cadre et les ambitions de la e-santé au Fénois.
Et ils seront donc réunis à partir de mercredi et pour 3 jours à l'université. Premier séminaire du genre appelé Polynésie e-santé, un événement porté par le pays dans le cadre d'une coordination de la politique numérique en santé. Un projet de loi e-santé dans lequel il est indiqué que les nouveaux outils numériques constituent des éléments de réponse primordiaux aux défis actuels, qu'on parle de pénurie de soignants, de tensions dans les structures hospitalières, de vieillissement de la population ou même de fléau de l'AIDS. Cédric Mercadal au micro de Lucie Ceccarelli.
Cette loi de santé qui donnera lieu à l'issue de ces journées hein, à quelques modifications, je pense, puisqu'on va entendre les partenaires, à un tronc commun qui a pour objet de parler de l'hébergement de données de santé, qui a pour objet de déterminer les garanties nécessaires à cette donnée de santé et les modalités de transmission entre les partenaires. C'est l'acte qui encadre les modalités de transmission et qui donne les garanties de protection nécessaires à la donnée de santé, qui est tellement particulière et tellement sensible qu'il faut y faire très attention.
Et autre gros chantier numérique qui sera discuté lors de ce séminaire, la mise en place du centre de coordination de santé numérique des îles. Il sera installé dans la rotonde et il doit coordonner les urgences, le SAMU, les dispensaires des archipels. L'ensemble des îles prioritaires y seront connectés en 2028 et tous les dispensaires d'ici 2030. Et il sera aussi question pendant ce séminaire de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
On a une partie IA en cancer qui sera aussi explicitée. Comment on l'utilise aujourd'hui, et c'est un programme qui va être présenté. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de thématiques, aussi bien en rénal, aussi bien sur la surveillance cardiaque aussi, et d'AVC. On a le programme ITI qui est déployé pour faire de la télésurveillance des gens, via de l'IA, via un certain nombre de choses. Ça sera une belle journée vendredi matin, parce qu'on va vraiment parler de ça. Et de la sécurité de la donnée, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, l'IA c'est un bel outil, mais il faut que ce soit sécurisé.
Voilà, le séminaire Polynésie Santé est gratuit et ouvert à tous. C'est donc sur 3 jours, à partir de mercredi à l'université.
En bref, dans l'actualité ce midi, le premier appareil de Motulink est arrivé.
Oui, Tehono est le premier ATR de la compagnie spécialisée dans le fret inter-île. Il a été accueilli vendredi à Tahiti. Cet ATR 500, devenu un avion cargo, doit relier Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Nuku'iwai, Tubuai avec Tahiti. Il apportera des produits frais aux urgents vers les archipels et ramènera la production agricole artisanale ou les produits de la mer des îles vers Tahiti. Avant de lancer les opérations, Motulink et son avion doivent encore obtenir un certificat de l'aviation civile d'État, un document attendu dans les prochaines semaines.
Et du côté de Paris, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end.
Et on a pu voir quelques vidéos chez notre partenaire d'Outre-mer 360 avec le président de la République Emmanuel Macron visitant les stands des Outre-mer. Le ministre Taïwini Tehei est également sur place et il en a profité pour s'arrêter chez ce spécialiste de l'extraction d'arômes naturels, Premium Goods. Objectif, renforcer les liens avec les transformateurs européens pour garantir des débouchés stables à la vanille tahitienne et mieux capter sa valeur ajoutée. Le marché mondial de la vanille est aujourd'hui largement dominé par Madagascar qui en vend 2000 tonnes contre une trentaine pour la Polynésie. Mais Tahiti veut désormais monter en gamme, avoir une meilleure traçabilité et des partenariats industriels solides.
On parle sport maintenant dans ce journal avec ce programme d'événements pour patienter jusqu'à Tahiti 2027.
Et l'idée est aussi de réussir à impliquer les Polynésiens dans ce grand événement sportif. Dans quelques jours, une plateforme va être ouverte pour l'inscription de ceux qui veulent être bénévoles. 4500 personnes sont recherchées et c'est le programme officiel technique en route vers Tahiti 2027 qui sera aussi lancé début mars. Les précisions de la présidente du comité d'organisation, Noéline Parker, au micro de Charlie René.
C'est le défi que le comité organisateur s'est fixé d'avoir 50% d'officiels techniques qui soient locaux. Et donc, le premier rassemblement, effectivement, c'est le 6 mars avec un programme de formation qui va justement aider à monter en compétences pour pouvoir être éligible et pouvoir encadrer les Jeux pendant en 2027.
Et en avril, les Polynésiens pourront expérimenter un relais numérique. Il s'agit de se connecter un an à l'avance aux autres pays attendus en Polynésie.
Alors, le relais numérique, c'est une manière pour nous de nous connecter avec les 24 pays du Pacifique et de commencer à ouvrir les yeux sur voilà, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs lieux mythiques, quelle est leur culture pour qu'on puisse aussi s'habituer et mieux les connaître. On a déjà commencé à travailler donc avec les pays qui vont pouvoir faire leur relais. Et le relais consiste surtout à montrer un événement culturel, mais aussi un lieu mythique de chaque pays et leur culture. Donc c'est plus une découverte avec un arrêt dans chaque pays du Pacifique.
Une journée olympique doit être organisée le 20 juin, juste avant la fête de la musique. Et puis un décompte aussi sera lancé à J-365 le 24 juillet prochain, où on pourra découvrir l'hymne officiel des Jeux. Il y aura aussi un relais des archipels avec la transmission d'un objet symbolique d'île en île. Ça, ce sera en 2027, à partir du mois d'avril. Et ce rendez-vous de Tahiti 2027 sera une vitrine, évidemment, pour le pays, mais aussi un événement inclusif. sportif. Jeudi, la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport et la Fédération Teniu Tehuma ont reçu dans leurs locaux les membres du COJ. Le début d'une collaboration destinée à garantir des infrastructures adaptées, des bénévoles formés et des équipements spécifiques. L'objectif est clair, faire de Tahiti 2027 un rendez-vous sportif où athlètes et spectateurs en situation de handicap auront toute leur place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur Radio.